positive.
Photographie, sculpture,
peinture,
dessin.
Expositive pour vous donner à voir.
Bonjour et bienvenue dans Expositive. Écoutez voir. Expositive, c'est l'émission qui vous emmène à la découverte de l'univers d'un ou une artiste à travers ses propres mots. Aujourd'hui, un entretien réalisé lors du décrochage de l'exposition L'Orée de Soie chez Trapèze à Saint-Jean-d'Angély en fin octobre 2025. Je laisse l'artiste se présenter.
Bonjour, je m'appelle Linda Trim et je suis photographe. Dans ma pratique, j'utilise exclusivement l'argentique et ce qui me caractérise habituellement, c'est l'utilisation de la couleur assez intense et des effets.
Aujourd'hui, on se retrouve parce que Linda Trim est déjà apparue dans Expositive, mais c'était pour des travaux en collaboration avec Claire Hans. Aujourd'hui, on va parler vraiment d'un travail entièrement signé par Linda Trim et je suis au milieu d'une série intégralement en noir et blanc.
Tout à fait. J'ai décidé de me challenger et j'ai choisi d'œuvrer en noir et blanc cette fois-ci, compte tenu du sujet que j'ai abordé, puisque cette série qui s'appelle Nigredo est un état des lieux, une fenêtre sur mes traumas, mes démons, toutes les choses qui ont en partie fait la personne que je suis aujourd'hui. Que j'ai décidé de réexplorer, réinterpréter tout ça dans un but tout à fait alchimique, comme le nom de la série l'indique, puisque l'œuvre au noir, aussi appelée Nigredo, sert à se débarrasser de toutes les impuretés par la calcination notamment et la décomposition. Voilà, donc j'essaye de décomposer cette matière de moi avec laquelle je pense que j'ai fini de dealer, disons, et passer à un nouveau chapitre de ma vie.
Alors, je voudrais quand même parler de l'ambiance que crée la mise en présence avec la série, parce que là, on est dans une pièce qui est entièrement dédiée à cette série. Et alors que ce sont des œuvres en noir et blanc, encadrées en noir, avec un passe-partout noir, et que le sujet est sombre, l'impression qu'on en a, c'est pas lourd. On n'est pas, nous, entraînés vers les abysses avec toute la noirceur qui est remuée. Donc peut-être le chemin vers la lumière est quand même déjà très apparent, en tout cas dans le ressenti que moi j'ai, et j'ai entendu d'autres personnes visiter l'exposition partager aussi ce sentiment de « Ah, c'est pas si dur, c'est pas si lourd ».
Mon but, c'était pas non plus de faire vivre au public le calvaire que moi j'ai vécu dans ma vie. Je souhaite à personne les épreuves par lesquelles j'ai pu passer. Mais je me suis aussi servie de cette série et de sa place dans la timeline de ma carrière pour mettre en pratique les choses que j'ai apprises, c'est-à-dire en termes de cadrage, en termes techniques notamment, puisque dans cette série, il y a des interventions de prévues sur des tirages, mais il y a aussi sur des tirages même des choses comme des multi-expositions. Et donc là, tout ça, ça a été très inspiré par le cinéma en noir et blanc. Je pense à des films comme Le cabinet du docteur Caligari ou alors Nosferatu, et très théâtral. Ça, c'est une dimension qu'on pouvait retrouver pas mal dans mes tout premiers autoportraits il y a presque 20 ans maintenant. Et du coup, je pense que c'est ça qui permet d'alléger un sujet qui est déjà lourd. J'ai besoin de leur maintenir quand même la tête hors de l'eau pour qu'ils puissent comprendre les histoires qui se cachent derrière ces images.
Il y a des images qui, à elles seules, ont déjà une force narrative. Et il y a aussi la construction de la série, parce que là, les œuvres ne sont pas encore intitulées, puisque je vois cette série dans le cadre d'une restitution après une résidence. Donc le travail n'est pas achevé, c'est un rendu sur une étape de la création. Moi, du coup, les images que je vois, elles n'ont pas été ni rehaussées, ni voilà, il n'y a pas eu d'intervention pour l'instant, donc il faudra suivre. Et dans le temps de la résidence, il s'est passé quand même beaucoup de choses.
Je marche à l'instinct, en fait, et j'essaye de ne pas trop m'accrocher à certaines finalités, parce que je me suis rendu compte dans ma vie, dans mon parcours, qu'on était assez systématiquement déçus. Donc je me laisse toujours une marge, c'est pas une marge d'erreur, c'est une marge de respiration, une marge pour le hasard. Pour ce qui est de la narration et de l'ordre des images, c'est pas quelque chose que j'ai pensé en résidence. En résidence, déjà, les prises de vue se sont pas déroulées dans l'ordre de la narration, tout simplement parce que y a des images qui parlent de choses plus dures que d'autres et que donc, émotionnellement et psychologiquement, c'était difficile de m'y mettre. J'ai fait des lits, j'ai essayé d'organiser mon travail de manière surtout pratico-pratique. Donc, cette sélection narrative s'est faite par la suite. Quand j'ai réfléchi à avec ce que j'ai déjà, puisque c'est une série en cours et qu'elle a la particularité du fait que les autres images qui vont être produites vont venir s'intercaler dans celles qui sont déjà existantes. Et aussi parce que j'ai fait une sélection pour cette sortie de résidence et je n'ai pas mis toutes les images que j'ai achevées pendant cet été. Donc, à suivre, mais je pense pouvoir dire sans me tromper que cette première image avec cette entité sombre à l'orée du bois, je pense pouvoir dire sans me tromper que ça restera la première. Je vois pas d'autres images, dans celles qui sont existantes bien sûr, aussi fortes pour débuter une histoire comme ça.
C'est une image en format paysage, avec au premier plan tout un fouillis végétal qui prend la lumière, qui est dans des gris très clair, presque blanc, et donc on a un arrière-plan avec le sous-bois beaucoup plus sombre, et au centre d'une ouverture dans les bois les plus clairs, il y a un personnage vêtu de noir, qui n'est pas seulement encapuchonné, le visage est couvert aussi de noir. Alors on voit que le noir est légèrement translucide, on voit vraiment les formes d'un corps qui se dessine, suivant comment le plissé du voile noir forme une superposition ou pas, et puis comment le corps vient tendre le tissu par endroits et donc laisser deviner une couleur plus claire à travers ce voile noir. Mais on a vraiment l'impression que ce personnage appartient à l'arrière-plan qui est sombre et qu'il faut le suivre en fait, traverser la partie lumineuse au premier plan et entrer dans les parties les plus sombres. Ça nous introduit complètement dans la suite de la série. Lors de chaque entretien, je demande à l'artiste de choisir sa pause musicale. Et il se trouve que la place de la musique dans la vie de Linda Trim, c'est quand même pas un détail.
Absolument, puisque à mes heures perdues, il m'arrive d'officier en tant que DJ. Et de toute manière, je fonctionne beaucoup avec la musique, à la fois comme inspiration et aussi comme bande originale de ma vie. Et donc, évidemment que pour cette série Nigredo, je suis allée fouiller tout au fond de mes tiroirs pour aller ressortir tous mes sons qui ont accompagné mes débuts de dépression à l'adolescence. Alors, donc, je vous dirais d'écouter Crawling de Linkin Park.
Confusing world is real. yourself upon me, distracting, reacting. Against my will, I stand beside my own reflection. It's haunting how I can't seem to find myself again. My walls are closing in.
Not a sense of confidence, I'm convinced that there's just too much pressure to take.
I felt this way before,
so insecure.
C'était Crawling de Linkin Park, le choix musical de Linda Trim qu'on retrouve tout de suite.
La figure noire qu'on voit sur l'image, c'est un personnage que j'ai matérialisé pour cette série, qui est en fait mon ombre. La partie dont on parle quand on dit faire du shadow work, travailler sur son ombre, il apparaît pour créer une espèce de dualité entre moi et moi-même. Et donc le but ultime de cette série, c'est de me réconcilier avec cette ombre et que cette ombre et moi, nous ne formions à nouveau plus qu'une seule personne parce qu'elle fait partie de moi au même titre que toutes les parties lumineuses de ma personne.
Le rapport ombre et lumière dans la photographie aussi, techniquement, il est central. Touche à touche, on a évoqué les pièces qui sont formées de plusieurs expositions sur une même zone de film. Il y en a quand même une où il y a 4 expositions, quoi. C'est quand même un tour de force, parce que techniquement, ça veut dire que toute la composition, elle est faite dans la tête de la personne qui prend la photo, puisqu'on n'a pas d'écran pour vérifier ce qu'on a fait et rajouter par-dessus. Donc c'est vraiment, faut avoir une conscience aiguë de comment fonctionne le cadrage et comment on se place au fur et à mesure, puisque les 4 personnages qui apparaissent au gré donc, des 4 expositions sont joués par la même personne, Linda Trim.
Je vais balancer les tuyaux, ce sera la première et la dernière fois. J'utilise un appareil qui se nomme le Kodak 500N. Et le Kodak 500N a la particularité d'avoir une fonction multi-exposition où on peut faire jusqu'à 9 expositions. Après, effectivement, j'ai fait des croquis pour ce genre d'image et j'ai eu de l'aide pour la prise de vue par Ariane Desplanques. Et du coup, j'ai essayé d'expliquer au mieux à Ariane les différentes proportions que j'attendais par rapport aux personnages et leur placement dans l'espace. Mais oui, clairement, ça, c'est quelque chose qui a été plus ou moins millimétré par rapport au cadre. Et on n'en a pas refait 15. Je pense que de cette image-là, il doit y avoir peut-être 2 ou 3 versions, parce que le problème, c'est qu'il faut que je joue tous les personnages l'un après l'autre, et donc il fallait se déshabiller, enfiler un autre costume. Donc voilà, ça nécessitait une organisation assez précise.
Le personnage qui est le plus net, c'est une version de Linda sans trop d'artifice, cheveux lâchés, et qui regarde vers le haut. Donc le personnage est au centre, en bas de l'image, qui prend moins même de la moitié. Ah, on est à nouveau dans un format paysage. Et son regard est porté vers le haut. Et donc, au-dessus, il y a un autre personnage où l'artiste est moins reconnaissable. D'une part, parce que la lumière est très crue et on voit, tenue entre ses mains, la source de lumière qui vient éclairer son visage et écraser un peu ses traits. Et les traits sont aussi déformés parce que
c'est une espèce de bouche très ouverte en silicone. Je trouvais que la façon dont ça me déformait le visage en laissant mes dents apparentes, puis du coup mes gencives apparentes aussi parce que c'est très écarté, ça me permettait de créer une nouvelle identité. Et en fait, cette image, c'est une représentation de mes juges intérieurs qui me tourmentent et de ce ressenti que j'avais quand j'arrivais pas à éteindre mon cerveau et que c'est comme s'il y avait 50 000 personnes dans ma tête qui arrêtaient pas de me crier des choses qui n'ont rien à voir les unes et les autres et aussi qui sont très dures envers moi, d'où le fait que le personnage qui est censé représenter moi sans artifice a l'air pas hyper à l'aise dans ce cadre. Et les autres personnages n'ont pas l'air non plus hyper sympathiques.
Oui, il y a vraiment une atmosphère très menaçante. Et en même temps, il y a quelque chose assez clownesque, hein, parce qu'il y a quelque chose d'un peu ridicule en même temps.
J'avais envie un peu de ce goût théâtral mis en scène, mais je ne voulais pas en faire trop non plus, parce que je n'avais pas non plus envie que le sujet soit complètement tourné en ridicule. Mais j'ai toujours aimé l'utilisation des accessoires, donc ça me paraissait une évidence, d'autant plus que, rappelons-le, dans cette série, j'avais pas accès à mes couleurs habituelles qui me permettent de peindre les émotions, en fait. Mais de toute manière, la seule couleur que je vois valable pour cette série, ça reste le noir.
Tout est dans le titre quelque part, mais pas que, puisque ce titre, il appelle aussi la suite de la série.
Je voudrais suivre le cheminement du travail alchimique, et donc la prochaine série après Nigredo, ce sera Albedo. Et on ira comme ça jusqu'à Rubedo. Donc Albedo, c'est le blanc, et Rubedo, c'est le rouge. Il y a une quatrième partie qui vient se placer entre l'albédo et le rubédo, mais c'est pas automatique, qui s'appelle Citrinitas et qui est jaune. Le jaune, c'est pas vraiment ma couleur, donc je sais pas. On verra quand je serai à ce moment-là si je décide de me lancer dans celle-là ou pas. Est-ce que le jaune me permettra d'exprimer d'autres choses que le rouge, le blanc et le noir ne peuvent pas? Voilà, on verra. En tout cas, pour l'instant, les trois autres restent une certitude. Mais je pense que, hormis dans mes autres travaux que je fais en parallèle, vous n'allez pas revoir la couleur tout de suite, parce que ben, l'albédo, c'est le blanc, et qu'on va continuer à travailler le noir et blanc. Ça me fait un peu plaisir, j'avoue. J'ai l'impression de... Je ne prends pas une nouvelle direction artistique, parce que j'ai quand même toujours envie de faire toutes les choses que je faisais avant. Par exemple, il y a 2 semaines, j'ai fait un shooting avec mon amie, la DJ Safist Eye, pour lui faire quelques portraits pour la presse. Et c'était un vrai plaisir de ressortir tous mes filtres et mes gélatines de couleurs. Je ne savais même plus où je les avais mises. Puis je pense que c'est aussi cette partie de ma pratique qui me permettra de garder une prise avec la réalité. Parce que quand on travaille sur ces démons... Déjà, c'est dangereux, je vous préviens, si jamais l'envie vous prend, ça ne va pas être une partie de plaisir. Donc, c'est un travail important, c'est un travail qui m'impacte. Voilà, il faut quand même faire attention parce que le but pour moi, c'est de nettoyer, de tourner la page et pas justement de m'entraîner au fond du terrier.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
J'espère que cet entretien vous aura donné envie de découvrir plus avant l'univers de Linda Trim. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur son site internet, lindatrim.com, tout attaché. Et je vous recommande de suivre son profil sur Instagram, puisqu'à l'heure où j'enregistre ces mots, je ne dispose pas encore des informations précises concernant les prochains événements qui vont se tenir en février à Rennes et en mars à Paris. Si vous ne trouvez pas sa page sur Instagram en recherchant son nom, c'est son anagramme, Adelin Myrthe, qui vous mènera dans la bonne direction. Si vous n'avez pas eu le temps de noter ces informations ou si vous n'avez pas entendu le début de l'émission, elle est peut-être encore diffusée ou rediffusée sur l'une des radios associatives qui nous soutiennent. Pour retrouver tous les jours et heures de diffusion, rendez-vous sur le www.facebook.com/expositive. À cette page, vous retrouverez aussi un article dédié à la présente émission avec tous les liens utiles prêts à cliquer. Expositive est une émission aujourd'hui entièrement produite par Yann Sirota. Elle a été créée à l'origine avec la complicité de Clara Giannichini, qui reste l'autrice de son générique. Générique qui doit lui-même beaucoup au groupe Bal en Chantier et au morceau Gotham Vals pour la musique. A bientôt pour une prochaine édition d'Expositive.
Expositive pour vous donner à voir.